surtout pour le moment.
Bah, tout bonnement, déjà le titre, un peu du accent, c'est assez extraordinaire, alors que pendant tout le film, il nous dit que le visage, c'est ce qui révèle quelque chose qui est infini, qui nous dépasse, quelque chose qu'on ne peut pas contenir. Donc, j'ai du mal à faire la liaison entre la révélation du visage et ce titre-là, du Dieu absent. Si je pouvais avoir un petit éclaircissement, je vous serais aidé.
Oui, d'abord, le titre des Dieux absents, ce n'est pas un très bon titre en fait, parce que je dirais bien, toute la question de l'absence et présence est beaucoup plus complexe en fait. Il a toujours essayé d'aller au-delà de cette dichotomie absence et présence. Et, mais il n'a pas vraiment parlé de l'absence des dieux, mais surtout. Plutôt la trace de Dieu. Donc, mais j'ai quand même choisi ce titre pour un peu poser une séduction aux Israéliens d'abord, religieux, non religieux, pour qu'ils voient le film, pour qu'ils viennent. Et pour poser cette conflit de Dieu qui est. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est ça. Hein. En même temps, vous avez parlé du visage qui est absent, présent. La question de Dieu est liée à la question du visage. Il ne faut pas confondre parce qu'il ne s'agit pas d'une révélation de Dieu par le visage, quelque chose comme ça. Il ne parle pas du tout d'une révélation d'un mysticisme juif ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, je veux dire, c'est des très tradition très austère de la poignée en fait, qui n'a rien à voir avec le mysticisme juif du 18e siècle. Mais quand même, ce qu'il y a dans le visage, c'est là peut-être où la trace de Dieu nous permet d'aller au-delà de cette dichotomie de présence et d'absence divine et être appelé par l'infini qui apparaît dans le visage de l'autre. On peut développer cette question, ce thème, mais en tout cas, c'est plutôt.
Sur ce point précis, éventuellement, je vous invite à une lecture, il y a en tout cas un corpus de texte. Cette question précédemment fait l'objet d'un dernier cours de Lilas à Sorbonne, en 1976, qui s'appelle un recueil qui s'appelle Dieu, la mort et le temps. Et vous avez le dernier cours en 1976. Qui porte justement sur un Dieu transcendant jusqu'à l'absence. Donc le titre d'un des films légitimé qui correspond à une notion.
Jusqu'à l'absence, c'est
jusqu'à l'absence. Et il insiste dans ce passage le fait que, quelque part, l'approche de Dieu est toujours en même temps une forme d'éloignement. C'est-à-dire que puisqu'il est un nom propre de Dieu, c'est l'infini. Quelque part, il se fait désirer au-delà même du désirable. Il se fait désirer, y compris au-delà de ce que l'on pourrait rechercher. Donc, il y a une forme d'éloignement dans l'approche, une présence paradoxale, quelque part. Et l'autre élément de réponse qui est fourni, c'est que l'INAS essaie de penser justement en dehors des catégories de l'étant, des choses qui sont. Pour essayer de libérer la pensée d'une vision du monde qui tend à l'objectivation, à la chosification. Et donc, quelque part, la notion de trace est une forme de signe qui renvoie à quelque chose qui nous précède, qui est toujours déjà passé. Un petit peu comme ce qu'il appelle l'Ilia, l'Ilia qui précède l'être et le néant, qui est cet événement du surgissement de l'être, qui est toujours déjà passé, et dont, quelque part, on ne peut, enfin, qui nous appelle, mais qui n'est pas quelque chose qu'on veut posséder, mais par une représentation, par un concept, par une image. Et donc, il essaie de préciser en quelque mesure l'acte éthique ne peut pas saisir quelque part cette dimension infinie. Il y a toujours une troisième dimension qui s'appelle illéité, un il, dont il voit le signe dans la prière juive, lorsqu'il dit en place de tu au il, c'est au-delà de l'éthique, de l'obligation envers autrui, il y a une troisième dimension, une hauteur, dans un sens qui reste inaccessible. Qui appelle la dimension séparée de.
Dans la proximité humaine, on s'approche, mais il reste toujours quelque chose inaccessible. C'est toujours, il y a une réciprocité totale. Ça n'existe pas chez les Linas. Parce que c'est comme dans ma relation avec Dieu, parce qu'en fait, il reste toujours plus loin que dès qu'un. Dès qu'on approche à lui, il laisse toujours plus loin qu'autrui. En fait, il dit, dans un moment, il dit que autrui est plus proche de Dieu que moi. C'est sans fil, ce que ça veut dire, mais il faut dire aussi que pour moi, en tant que laïc, je ne suis pas du tout religieux, et pour moi, l'importance de cette pensée, c'est pas ce qu'on peut prendre dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que pour moi, Dieu n'agit pas un rôle principal, même s'il est absent, présent ou dans le nom de ce film. Ce qui reste, c'est l'un vis-à-vis à l'autre, c'est entre nous. Dieu n'est pas là pour nous aider, il n'est pas là pour convaincre ou quoi que ce soit. C'est un des humains qu'il faut. Il faut créer des solutions à des problèmes politiques, économiques.
Est-ce que vous pourriez nous dire, qui est un point tout à fait annexe, j'ai des raisons personnellement préoccupées, pourquoi est-ce que Levinas a choisi le visage pour avancer tout ce qu'il développe à partir de ce visage, et non pas seulement le regard. Et est-ce que le regard peut être considéré comme une espèce de quintessence du visage? Est-ce que Lévinas en parle du regard par rapport au visage? Si quelqu'un pouvait m'en dire deux mots, je serais intéressé.
Comme la coopération franco-israélienne fonctionne, alors, c'est une question vaste, hein, parce que quand on parle d'utiliser le corpus lévinasien, ce que je pense pouvoir dire, c'est que dans le film, il est rappelé que la notion hébraïque de visage, naïm, est une notion très importante pour dire que par la présence de l'altérité. C'est un terme qui veut dire à la fois la face, le faciès, sur la façade, superficielle, et en même temps, quelque part, c'est aussi la présence même de Dieu. Quand dans la prière, on dit « montre ton visage », il y a un appel à cette présence même qui peut se tourner, qui est prévenante, qui est agissante. Voilà. Donc il y a cette ambivalence. Donc, je pense que si les liens s'ajoutent ce terme-là, c'est parce que c'est à la fois quelque chose qui se montre et qui n'est pas un phénomène. Oui. Donc je pense que pour lui, ça, c'était la porte d'entrée pour dépasser de l'intérieur sa tradition phénoménologique, qui est une étude des phénomènes. Bon, il le dit lui-même, hein, c'est cette espèce d'événement qui fait irruption et qui ne sera jamais quelque chose que je peux ni connaître ni posséder. Donc voilà, donc pour moi, c'était, je pense qu'il a marché ce terme-là au hasard. Il parle par contre profondément, il y a le visage profondément, quelque part regard. En ce sens, il y a un prolongement immédiat sur le corps conceptuel. Si le visage, d'abord, ce qui me regarde de l'autre, hein, y compris, comme il le dit dans le film également, hein, y compris si c'est le dos de la personne. Hein, c'est pas ici un faciès, on parle de physionomie. Il s'appelle en particulier sur le livre d'David Grossman, Vieil Destin, dans lequel il a découvert tardivement, je regarde comme ça Jacques Roland, et qui fait le portrait de ces soldats à Stalingrad, qui ne sont plus que des corps dans la neige, et voilà, apercevoir de dos un être humain, c'est déjà être appelé par un regard. Voilà. directement sur le salut de Robert, je dis merci.
Dans la tradition juive aussi, le mot panim, là, c'est. Bon, c'est un concept très très chargé. Quand on parle de Moïse qui était face à face avec Dieu, on profite vraiment, on mentionne le mot panim, visage, vis-à-vis de Dieu. Mais pour les mêmes ressources, il ne s'agit pas d'être vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis à l'autre. C'est déjà ça, là où Dieu laisse ses traces. Mais peut-être aussi, il faut peut-être insister sur le visage et pas le regard, parce que pour les minas, il y a une autre chose qu'il faut savoir, il faut lire, il faut connaître, c'est une partie d'une ambiguïté qui existe dans le visage. Et c'est pour ça que le visage, l'échappe, c'est un phénomène limite. S'il y a une phénoménologie, alors il y a des phénomènes qui échappent toujours à la vision ou
à la visée, attention.
À la visée, oui, mais bon, on ne rentre pas dans les termes de Rousseau ou de Heidegger, mais en tout cas, dans le visage, il y a à la fois une faiblesse et un hauteur. Il est toujours fragile. Le visage, c'est la partie la plus nue du corps, pas seulement le regard, mais le visage. Et l'ambiguïté, c'est voir en même temps les deux. Cette fragilité et cette hauteur qui est plus que moi. Il m'ordonne, il me juge. Le regard fait partie de ça, bien sûr. Mais dans le visage, par exemple, il y a le visage de quelqu'un qui souffre, et en même temps, ça peut être quelqu'un qui réjouit, c'est la joie, la souffrance. Parfois, on peut pas savoir. Dès qu'on fige un visage, on dit, ouais, il souffre, il crie, ou quoi que ce soit. Ce n'est plus le visage. Parce que le visage, c'est comme un élément qui change tout le temps. Donc, c'est pour ça que ça échappe toujours à la phénoménologie de Rousseau.
Merci. Mais, sur Dieu absent, il semble que c'est quelque chose qu'on trouve dans toute la Bible. Moi, je suis chrétien, mais comme chrétien, je lis la Bible. Comme chrétien, c'est quelque chose qu'on trouve dans toute la Bible, c'est quelque chose qu'on trouve chez, il me semble, beaucoup de mystiques, chrétiens ou autres. C'est que Dieu cache sa face. Dieu a une face, mais il la cache. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cacher? Mais je veux juste citer comme exemple, dans un psaume biblique, c'est le psaume 12 pour les chrétiens, je ne sais pas quoi ça correspond chez les juifs, parce qu'il y a différentes classifications. Ce psaume commence « Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? »
Il y a le terme de Esther Panim, cacher la face en hébreu. Bon, il y a même le philosophe qui ont dit que pendant la Shoah, il y avait un moment historique où Dieu a caché son visage, sa face. Il ne voulait pas regarder. Et tout ce qui s'est passé, c'était à cause de ça. Oui, ça existe, bien sûr, dans la tradition judéo-chrétienne. Je pense toujours que les minas donnent une autre dimension à ça. Ils ouvrent la question du visage. Un autre conscient, de penser même de l'acte. Donc, si on pense, pour moi c'est important aussi au niveau politique, pour la vie politique comme je parle, pas seulement au niveau de alors je pense que ça, l'importance de l'élien, c'est montrer comment, avec la technique phénoménologique, comment on peut lire la Bible à nouveau. On peut continuer à lire la Bible avec des idées qui viennent de la philosophie qu'on a morale.
Je pense que ce qu'on peut mettre en valeur aussi, c'est que la lecture traditionnelle de ces passages bibliques suppose qu'il peut y avoir un dévoilement de Dieu, une apocalypse dans le sens logique du terme. Alors que la pensée juive, en particulier les gens comme Martin Buber, on parlait de l'éclipse de Dieu, médite sur un Dieu qui ne peut pas, quelque part, se réveiller davantage, parce qu'il n'existe pas ailleurs que dans les relations de justice. Et c'est une des définitions, on peut dire, de la pensée de Dieu chez Lévinas, hein, qui donne dans un dernier entretien en 97 à Richard Curnet, pas en 97, récemment. C'est que Dieu, l'être de Dieu, ce sont les relations de justice entre les hommes. Il est sa justice. Et c'est vrai qu'il y a une tension entre penser un divin qui n'est pas autre chose que la justice entre les humains, et puis la position plus radicale de Derrida qui apparaît dans le film, qui dit je prie et l'être n'existe pas. Est-ce que Dieu n'est que l'être à qui on s'adresse? Celui à qui on s'adresse au sens aussi que le film rappelle, à savoir à qui on se dévoue, hein, qui n'a finalement plus d'existence distincte de moi. Donc là, il y a un absentéisme avec un H, qui est particulièrement médité dans la pensée contemporaine, comme étant une forme autre de présence, que la présence, pour une fois, mondaine d'une chose, et qui est une présence en même temps dont le retrait dans le vide nous appelle, nous, quelque part, à la société. Là, on peut rapprocher ça de l'invitation de Rancionas, un dieu à Auschwitz. Le concept de Dieu à Auschwitz, Rancionas, qui est un texte très important sur quel type de présence peut-on mettre à Dieu après la Shoah. Et dans le film aussi, Lévinas dit qu'il peut avoir déjà la présence d'un dieu juste ici, qui interviendrait de l'extérieur au monde, puisqu'il ne sait plus dans la Shoah.
Si vous ajoutez un mot, dans le judaïsme, il n'y a pas une révélation de Dieu, il ne se révèle pas seulement dans sa parole, la justice ou la loi biblique. Donc même à Moïse, il ne voit pas Dieu, il ne voit pas le visage. Ce qui est révélé, c'est les paroles divines, en fait. L'inspiration divine. Donc il n'y a pas vraiment de révélation même dans la tradition juive, pas une révélation de Dieu comme quelque chose.
Encore une question, on va pouvoir passer au témoignage ensuite.
Bonjour, j'ai une question. Vous avez dit en fait le visage de l'autre est une adresse. Et en fait, il y a juste une question justement qui m'interpellait, c'est quand quelqu'un s'adresse à moi, on peut se poser la question, d'où s'adresse-t-il? Et il part dans le film à un moment donné d'un lieu inaccessible. Et j'aurais voulu comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire exactement si lorsque un autre s'adresse à moi, ça vient d'un lieu inaccessible.
D'un lieu inaccessible.
Ce que dit Einstein.
Pardon?
C'est ce que dit Kedar.
Oui, oui. Oui, donc. C'est un non-lieu, parce qu'on ne peut pas montrer d'où ça vient. C'est un non-lieu, c'est cette illéité inachevable de l'autre. Même si on est très proche, on dit tu, toi, moi, tu peux dire tu, mais il y a toujours une illéité que je ne peux pas accéder. Alors, il parle de ça. Et d'une manière intéressante, vous avez provoqué l'autre côté de cette illité, c'est cet il y a. Alors il y a deux. À mon avis, il faut voir cette. Il y a comme deux phases de l'inachevable. L'Ilia, c'est peut-être l'être neutre. Et l'Ilaïté, c'est l'inachevable dans l'autre. Bon, mais c'est peut-être lié quelque part, parce que c'est dans le langage, la langue française, mais toutes les langues aussi, cette troisième personne était. C'est un thème très, très important, pas forcément pour le lien.
C'est aussi une question un peu technique, hein, parce que c'est vrai que on concentre là un petit peu dans des formules, un parcours de pensée, où il y a une tension un peu même dans l'œuvre. Si on prend une totalité infinie en 61, qui est des œuvres majeures, elle est centrée sur l'idée que autrui est dans un lieu inoccupable, c'est-à-dire que je ne peux pas être autre, hein, donc je ne peux pas être à sa place, et du coup, je suis convoqué du coup pour répondre de sa souffrance, tout en marquant le fait qu'il y a une extériorité radicale, ça s'appelle un essai sur l'extériorité, une séparation radicale. Et quand on prend l'œuvre autrement qu'être, en 73, on a du coup, là une œuvre qui a beaucoup la substitution. Et en fait, le cœur de la solution a été écrit en 67. Donc, en quelques années, il accentue le fait qu'il y a un devoir radical, non pas de prendre la place de l'autre, mais de répondre à sa place de la souffrance, et même de répondre de sa responsabilité. Hein? Ce qui fait que les images sont de plus en plus violentes, parce que la responsabilité humaine va jusqu'à être responsable, quelque part, de l'inhumanité des autres humains. C'est évidemment encore un choix, hein, pas seulement. Donc il y a une radicalisation finalement de cette exigence politique dans son œuvre, dans son caractère nécessaire.
Juste un dernier élément très court sur les lieux, parce qu'en hébreu, bon, il n'y a pas le nom de Dieu, on ne prononce pas le nom de Dieu, mais on dit parfois Hachem, les noms, ou Amakom, les lieux. Donc ça donne aussi.
Bonsoir, Maître Rava. Je voulais savoir quel élément, justement, que vous aviez donné en hébreu, bon, là, vous venez apparemment de répondre, quel est le titre du film en hébreu?
C'est comme en français, la Haïla Néda.
Alors, vous avez donné quel nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu?
Elle,
ok.
Elohim,
ok, je voulais savoir ça. Merci.
Merci beaucoup pour les temps d'échange. On va donner la parole maintenant aux deux témoins. Bonsoir. Donc, Catherine Sophie Valade, qui est une formation infirmière, titulaire du master d'éthique de l'Université de Brest. On va se présenter un peu comment cette pensée de Livins a fait écho, vous êtes à ce soir. Une pause pour descendre du ciel. en grande technique.
C'est l'autre qui m'indique le respect. ce ne sont pas la force ou la puissance de l'autre qui m'oblige, mais sa fragilité. De manière particulièrement marquante dans certaines unités de soins, que ce soit en pédiatrie, en réanimation ou dans les soins palliatifs, la vulnérabilité exposée des patients trouve dans le soignant une souffrance de la souffrance d'autrui qui préfigure la responsabilité. Comme l'écrit si justement Agatha Zilinski, on ne peut pas ne pas être transformé par l'autre. Cette responsabilité est instaurée par Emmanuel Levinas comme une responsabilité totale pour l'autre, devoir issu d'un commandement, d'une injonction. La responsabilité ne vient pas de moi, elle m'est imposée par autrui qui m'assigne sa protection. Cet autre qui m'enjoint révèle l'infini. Il est visage mais non faciès. Il me commande, il me pousse à toujours répondre de ce qui est vulnérable. La blessure du malade apostrophe les médecins et les infirmiers que nous sommes. Elle nous convoque à la responsabilité et à l'action dans notre corps, dans notre cœur et dans notre esprit. Notre corps est saisi par la souffrance du patient et son appel. Sollicité par cet autrui, dont le visage peut se matérialiser par une plainte, un gémissement, un tremblement, une main qui se crispe sur un bras, notre corps est mobilisé malgré lui. Empreint de compassion, forme de bâtir avec le sujet malade, nous sommes poussés à l'action. Indignés par sa vulnérabilité, nous ne pouvons pas nous dérober et nous aspirons à aider cet autrui blessé à soulager ses souffrances. L'épiphanie du visage comme visage ouvre l'humanité. Son accès est d'emblée éthique, rencontre. De celle-ci surgit un impératif pour Emmanuel Levinas. Tu ne tueras point. Cet ordre trouve en écho chez le soignant, en particulier dans le contexte des soins palliatifs qui sont orientés naturellement vers le soutien de la vie, bonté, générosité, écoute, presque en allant accompagnement. Les soignants se transforment en s'engageant. Ce soutien du processus du vivant, tel que le décrit le médecin et philosophe Donatia Vallée, appelle une certaine disposition à l'égard de la personne en souffrance. Une attitude dans la réflexion médicale qui devient soignante, qui reconnaît l'expérience vécue et aide la personne soignée à donner du sens à sa vie. Guider, compatir, solliciter, empathie, être avec, bien plus que savoir, savoir-faire et savoir-être, tout cela sont des outils très efficaces du soin palliatif. Pour le penseur de l'absolu, Emmanuel Levinas, la responsabilité semble être sans limite ni mesure. L'injonction d'autrui peut me mener jusqu'au sacrifice. Je suis responsable d'autrui sans attendre la réciproque, d'utile dans mon élève. A contrario, la responsabilité de mon patient n'engage que lui, elle ne me regarde pas. La seule limite à cet absolu, à cette responsabilité sans limite qui m'incombe, ce sont les autres autrui, pour lesquels une nécessité de justice est inévitable. Fondamentale. Si je suis seule avec l'autre, je lui dois tout, mais il y a le tien. Le soin se refuse alors comme don total à un patient, sans mesure aucune, aux dépens des autres membres d'une communauté. Il ne se conçoit pas comme sacrifice de tous les autres autrui au seul bénéfice de la personne soignée. En tant que soignant, je ne suis pas tenue de tout donner à un patient. Mon devoir n'est pas sans fin, je dois pouvoir éprouver un certain contentement conscient. La blessure incarnée impose bien sûr ma révérence, mon salut respectueux. Je peux, si ma conscience et la loi me l'accordent, tout donner de moi dans une courte temporalité bien déterminée et définie. Aucun infini n'est cependant humainement insoutenable. Tout donner n'est pas tout accepté. Le soin ne sacrifie pas son auteur, sa famille et sa vie. Cela ne peut que générer de nouveaux conflits. Touché par des notions particulièrement prégnantes en fin de vie, Emmanuel Levinas est souvent invoqué en éthique médicale. Si la considération de l'humain et l'engagement dans le soin sont parfaitement explicités par sa philosophie, sa pensée n'est pas adaptable systématiquement. L'engagement absolu vers lequel le sujet responsable doit tendre est irréalisable dans une pratique soignante sereine. Seule la responsabilité parfaitement cadrée et limitée protège du risque de retour vers un « il y a ». Ce presque néant qui n'est même plus nombre pour certains, et que seul un chien, Bobby, le dernier cancien de l'Allemagne nazie, a la capacité de reconnaître comme humain. Emmanuel Lévinas nous invite à rendre témoignage. Autrui est plus haut que moi. Mon patient est plus haut que moi. Je m'incline devant sa souffrance, sa force et sa fragilité. Je suis homme et humain, me voici. Je vous remercie.
Est ainsi un principe a priori de la mortalité humaine. Pas
évident pour notre médecine moderne, technico-scientifique, pas évident non plus pour la médecine hippocratique, qui conseillait de ne pas s'occuper des incurables. Une responsabilité m'incombe à ne pas laisser autrui seul, autrement dit à m'en rapprocher. Mais ici, l'Église m'abandonne sur le chemin, sans me dire comment faire. Cette pensée-là n'est pas livrée clé en main. De ce visage, deux aspects me stimulent au quotidien. Sa présence dans le refus d'être contenu. Le visage se refuse à la possession, à mes pouvoirs. Il se refuse à ma technique, à mes pronostics, à mes efforts pour cerner le problème. Il m'invite ainsi à penser la complexité, à ne pas céder trop vite à la facilité. Faciliter des solutions rapides et définitives. Faciliter des réponses instantanées. Il m'oblige à continuer à croire à la fécondité de la confrontation des idées. Enfin, en unité de soins palliatifs, le visage est la figure paradigmatique du maître de justice, pour le dire comme Paul Ricoeur. La figure d'un maître qui interdit le meurtre et commande la justice. Voix qui m'interpelle comme du Sinaï, tu ne tueras point. Interdiction qui se loge dans la possibilité même du meurtre. Car on sait combien les situations de fin de vie les plus difficiles, modèle de la vulnérabilité, sans réserve, ou encore mieux de ce que Lévinas appelle de l'être offert sans retenue, cet appel au meurtre peut se faire particulièrement pressant. Le visage exprime alors mon impossibilité morale d'anéantir. D'autres possibles sont à l'œuvre. Pour conclure, je dirais que l'éthique d'Emmanuel Lévinas est pour moi une manière de se tenir à proximité de l'autre, une proximité sans projet défini, ouverte à des possibles. J'ai été d'abord très impressionnée par sa pratique systématique de l'excès dans l'argumentation philosophique. Je me suis rendu compte qu'elle avait pour fonction de me rappeler à une intranquillité qui est déjà une condition éthique. Alors, Lévinas le dit lui-même, il ne sait pas dessiner la solution des problèmes insolubles. Cette solution, dit-il, dort au fond d'une boîte sur laquelle veillent cependant des présences qui se sont rapprochées. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je crois qu'on est très admiratif du travail que vous avez produit pour montrer ce qui est haut puissant dans votre réflexion, dans la pensée de Lévinas. Cela ouvre un échange entre nous sur ce qui a été un instant présenté, et puis on revient également sur d'autres enjeux avant de faire un autre ici. Voilà, la parole est à vous.
Bonjour à tous. En fait, je me présente, je suis aide-soignante et j'ai travaillé également sous palliatif. Donc, ce que vous avez dit, en fait, ben, je me retrouve dedans. Et je crois que, enfin, si je reprends un petit peu l'état d'esprit d'Emmanuel Lévinas sans vouloir le trahir, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la vulnérabilité du patient et même de la mienne aussi, puisque, ben, quand j'ai été confrontée au regard de l'autre dans ma pratique, je n'ai pas pu m'empêcher d'être touchée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut amener à une transformation de soi. Pour ma part, c'est le fait d'avoir travaillé en soins palliatifs qui m'a guidée jusqu'ici et qui fait qu'aujourd'hui, je suis en troisième année de psychologie. Voilà. Donc, je pense que c'est important, finalement, au-delà de la vulnérabilité, de voir le sens que l'on peut en faire.
D'autres réactions, témoignages, réflexions, questionnements, mises en question aussi, parce qu'on est là aussi pour avoir une pensée critique, prise sur les menaces.
C'est par rapport à autrui, quand vous dites, quand vous citez Vinas, je suis seule avec vous, je lui dois tout, mais il y a le tien. Alors, le tien, je vous avais cité la famille, par rapport à la famille, qui a aussi une responsabilité, comme le soignant, comme l'infirmier ou le médecin. Mais je pensais aussi à la responsabilité vis-à-vis des malades, puisque quand on voit en France actuellement, il y a quand même beaucoup de peu d'infirmiers ou peu de médecins, enfin beaucoup de malades. Donc du coup, à un moment donné, c'est que la responsabilité, oui, mais aussi à un moment donné, je dois dire stop, parce que j'ai aussi d'autres personnes à m'occuper. Donc à un moment donné, il faut savoir qu'on est obligé de dire non à la demande, heureusement, puisqu'il y a les autres de l'aide.
Imaginer que pour Lévinas, cette fonction-là est celle de la communauté, de la société ou de la politique. Le tiers, voilà, vient justement limiter la responsabilité. Parfois, la communauté n'est pas là pour faire tiers.
Lévinas a une conscience de cette objection, hein, puisqu'elle en fait, elle en parle, hein, il dit de. Il y a le tiers, donc il y a la question de justice, et là commence l'ordre du politique et des lois en particulier. Par contre, ce qui est intéressant dans notre réflexion, c'est qu'on n'a pas, dans la maison chez Lévinas, de principe permettant de définir les sphères de responsabilité, les limites de cette responsabilité. Hein, puisqu'il rappelle, encore une fois, il nous renvoie toujours vers une dimension qui précède toute considération, y compris une considération. De régulation, de partage des biens, de répartition du temps de travail, etc. Donc il nous renvoie toujours à cette radicalité en amont, avant, après, d'accepter qu'il y a un jeu du monde, mais ça peut aussi être un impératif. D'abord considérer l'exigence infinie, quelque part, du respect de l'altérité, avant, et ne jamais le soumettre à un jeu, à un calcul des choses mondaines. C'est ça son pari, comme ça. Qui a effectivement une certaine limite. Hein. Alors, la pensée de Paul Ricoeur, par exemple, s'est constituée aussi dans une critique de cette dimension-là. Ce qu'il disait, en particulier, des écrits comme l'article d'éthique morale, par exemple, hein, il y a une critique de Lévinas sous cette dimension, on va dire, incommensurable, sans mesure, finalement, dans la société. D'autres questionnements, des choses qui interrogent.
Merci. Bonsoir. Je voulais juste questionner et qu'on éclaire sur quelque chose qui, je ne pourrais pas dire qui me gêne, enfin, qui m'interroge. C'est autour de cette responsabilité, l'horizon de bonté. J'ai cru entendre quelque chose autour de ça, et c'est peut-être un travers de mon métier de psychiatre, mais je suis toujours un petit peu en difficulté avec cet horizon nécessaire, enfin, cet horizon, cette tension vers la bonté. Que j'ai cru entendre et voir à la fin du film et dans le propos que nos collègues nous ont proposé.
Le film, c'est un réalisateur. La bonté, c'est un vivant, je crois.
Chrétien, on le dénonce pas de ce petit art de bonté. Qui en fait c'est la seule manière de lutter contre le mal. Parce que le mal ne peut rien faire contre celui-ci. Acte de bonté. Alors peut-être là on peut voir de quoi il s'agit quand il parle de la bonté. Et bien sûr que c'est très difficile de convaincre le mal avec de petits actes. Mais c'est un travail infini, je pense que c'est ça. Il ne s'agit pas d'une montée d'un courant de quelque chose artificiel ou de slogan qu'on ça ne peut pas être tout ça, mais ça s'appelle vraiment à bon travail, de petite à des bontés. Il y a les devoirs en tant que médecin ou infirmière, mais il y a toujours, tout le temps, ce petit acte inévitable, sans laquelle le métier de médecin, je pense, oui. Quand on est hospitalisé, par exemple, sans ce petit acte qui peut être vraiment très petit, juste amener de l'eau dans un moment, c'est pas toujours quelque chose de très héroïque, mais vraiment de petit acte. C'est ça qui fait la différence. Je pense que c'est, qu'il faut prendre la bonté aussi dans cet horizon des actes non héroïques. Mais il y a d'autres manières de parler de la bonté aussi.
Oui, je crois qu'Emmanuel Lévinas, quand il parle de la bonté, se réfère beaucoup à Vie et destin de Vassili Grossman. Dans cet ouvrage, il me semble que la bonté, c'est la vieille femme qui donne un morceau de pain. Voilà. C'est, finalement, la bonté, c'est ce qu'il y a d'humain dans l'homme. La petite chose, en effet, qui ne relève pas de l'acte héroïque, mais qui va finalement sauver le monde. Enfin, il en parle beaucoup autour de cet ouvrage. C'est un mot qui n'a pas bonne presse dans nos professions. Mais pourtant, je trouve qu'on tourne un petit peu autour à travers la sollicitude. Hein, un autre mot qui, voilà, qui fait appel à quelque chose de semblable. En tout cas, voilà, un acte, un petit acte qui n'a rien d'héroïque.
Je me trompe, j'ai entendu de la question de mon collègue psychiatre comme un soupçon. Comme quoi, cette notion de bonté pourrait être un peu prétentieuse, une forme de pureté qui manquerait un peu de l'ambivalence du désir humain. Donc, c'est vrai que pour moi, ça reste aussi un objet questionnant. Hein. Donc, il y a deux points de réponse, c'est que la bonté n'est pas le bien. Et que la bonté, c'est la gratuité de la pension éthique, ce qu'il appelle le désintéressement, là où le bien serait la prétention à réaliser l'idéal. Et on sait combien de mots on a fait au nom du bien. Donc, le premier type de réponse. Et le deuxième type de réponse, c'est quid, du coup, de l'ambivalence, hein, de la perversité intrinsèque, de l'intéressement inéluctable dans toute la bonté. Et je pense que la réponse d'Evinas, c'est que cette contamination de la bonté par l'intéressement, il accepte, mais en considérant que c'est une contamination. Et que ce qui est premier, quelque part, reste finalement le fait que nous sommes appelés de façon radicale, et qu'ensuite, il va y avoir une surréaction à cette effraction de l'autre en moi. Cette surréaction, ça peut être effectivement aussi de la façon dont on va détourner quelque part cet appel éthique vers ce qui est mon bien, ma préoccupation, ma façon d'accaparer l'autre, etc. Hein, je pense qu'il pourrait s'en tirer comme ceci. Enfin, je ne suis pas Lévinas, en tout cas, c'est vrai que ça reste un questionnement hein, finalement sur comment Lévinas se confronte à toute l'approche polémique, par exemple, dans l'ambiance du désir, à la question de la perversité, à la question de. Voilà, la complexité, finalement, éthique et intrinsèque et structurelle de l'humain. Encore une fois, il a fait le pari que cette complexité, c'est une complication par rapport à une position originelle que nous ne nous donnons pas, finalement. C'est comme si ça nous précède. Hein. Avant même d'avoir un désir, nous sommes appelés. Voilà. Il y a une précédence qui va de l'appel sur le désir. Alors, d'autres formations, oui.
Je me disais que la bonté, est-ce qu'elle ne naît pas simplement dans la rencontre des deux visages, justement déjà, et que la rencontre des visages avait permis par ce Dieu qui s'éclipse pour laisser justement cette rencontre, pour permettre la rencontre. Et j'ai l'impression, d'après Lévinas, qu'en fait Dieu ne veut pas s'imposer, il permet les rencontres, donc la bonté.
Mmh.
pensée, moi, je l'entends plus comme de la... Et si on reste sur un plan purement humain, comme de la bienveillance, à l'autre et à l'humain. Et notre responsabilité, c'est de veiller à à prendre soin de l'autre. Et c'est notre responsabilité en tant qu'humain. Et c'est aussi dans ce sens que j'entends le titre de Dieu absent. C'est en gros, une fois qu'on retire Dieu, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain, l'un face à l'autre, et comment on prend soin de l'autre en tant qu'humain.
Merci beaucoup. On voit que ça fait travailler. Ça fait penser. D'autres réflexions ou...
Est-ce qu'on peut dire que finalement la pensée de Lévinas, c'est l'éducation de notre libre arbitre?
Commencez-nous. Pas de réaction. Écoutez.
Une question pour vous.
Ah bon, je vous remercie. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment un vrai projet. C'est-à-dire que la notion de libre-arbitre, dans la pensée moderne, en particulier chez Descartes, c'est une notion qui est première. Notre liberté a à se décider entre le bien et le mal. Alors que chez Lévinas, c'est l'appel. Par un bien qui me précède, qui m'ouvre ma liberté. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce qu'il appelle l'appel éthique ici, quelque part, est l'espace où je vais apprendre à dire je. La première façon que je vais dire je, c'est de répondre me voici à l'appel. Donc ma subjectivité est précédée par l'appel éthique. Donc on voit bien que la libre arbitre, qui est censée être une forme de fondement, là, est renversée. Puisqu'il est précédé par ce qu'on appelle le prix originel, les dimensions anarchiques de l'éthique. Et par contre, si on veut sauver cette proposition, c'est de se dire qu'il a lu Descartes de près, et ce qu'il remarque, c'est que le libre arbitre, en chacun d'eux, qui dit je, finalement, découvre en lui une dimension qui est infinie. Et c'est là que le point commun avant la pensée de Lévinas, qui lit beaucoup la méditation cartésienne où il est question d'un Dieu qui vient à l'idée, c'est l'idée d'infini, il y a infini que je ne peux pas me donner moi-même parce que je suis fini, donc cette idée vient en moi et elle est innée en moi. Cet infini, chez Descartes, c'est la volonté. Donc, dans un certain sens, il y a une dimension d'infini en l'humain qui se découvre, voilà, et qui est médité par Lévinas comme étant justement cette trace divine. Ouais. Mais sinon, il y a vraiment un renversement de la position du je fondamental, de la liberté qui se décide, de la tradition cartésienne, kantienne. J'ai vraiment la renversée, je pense.
Merci. Je voudrais apporter ici le témoignage. Je suis depuis une vingtaine d'années le médecin médiateur du CHU. C'est-à-dire que depuis 20 ans, je vois défiler les plaintes et les souffrances, parfois indicibles, qui sont occasionnées par la machine médicale, puis la machine à dessin, lorsqu'elle fonctionne en sens contraire de son but, qui a été exposé très bien par les deux dames ici. Alors, je me rends compte, lorsque j'examine cet ensemble de lamentations, qu'il y aurait un mur, on l'a vu, le mur dans pour ces lamentations, et pas seulement un vieux monsieur qui s'occupe pour occuper ses vieux jours de la méditation. Ce n'est plus souvent pas occasionné par une personne, mais par le fonctionnement général du système, par l'engrènement des dispositifs les uns avec les autres, par les dysfonctionnements en rapport avec les divers mécanismes et diverses traversées de ce que le malade a parcouru pendant son parcours de soins, comme on dit. Cette organisation-là, il y a une forme de mal qui aboutit maladies, à des souffrances, et qui ne peut pas être imputé à des subjectivités. Est-ce que Léninas a quelque chose à en dire de ce mal-là? Et comment est-ce que la subjectivité peut se poser par rapport à ça? Mais il y a quand même aussi des médiations à cause de la conduite de la part, effectivement, des personnes. Ça existe aussi. Mais le plus souvent, c'est un mal interstitiel qui est présent dans le système lui-même et qui est en train de s'aggraver, d'ailleurs, avec ce qu'on est en train de faire en ce moment-là, ici.
Vous aurez le temps à monsieur. Premièrement, réponse, comme on dit dans le film, Léninas a été l'ami très fidèle de Maurice Blanchot, qui est un des penseurs de la dimension impersonnelle de l'être, qu'il a nommé Lilia, et qui, par certains côtés, renvoie à cette expérience de l'absurde insignifiant que l'on peut retrouver parfois dans les dispositifs des institutions humaines. Et donc, en un sens, on peut dire que Léninas a une dimension du mal qui n'est pas la violence agressive explicite, mais qui est plutôt l'annihilation quotidienne de toute tentative de bonté et d'humanité. Voilà. Par contre, notre dernière réponse, c'est qu'à mon avis, à ma connaissance en tout cas, je ne vois pas chez Léninas une réelle pensée sous ses clés techniques. La technique comme dispositif autoproducteur et qui est capable de se passer du sujet, qui est capable de se passer de l'humain. Donc il y a une différence avec, on peut expliquer, cette absence qu'on perd, c'est parce que le grand penseur de cette question-là, c'est celui qui a pensé son dispositif, c'est Heidegger. Et je pense qu'une partie de cette distance avec Heidegger l'a amené à ne pas reprendre quelque part, se confronter à cette question de la technique, du système administratif, politique, etc., dans son caractère anonyme. Par contre, il a médité dans les premiers temps de sa vie, dans des textes comme L'existence à l'existant, par exemple, des textes très précis sur la dimension anonyme de l'être, et on peut dire toute sa pensée éthique, une façon de pouvoir sortir justement cette dimension anonyme. Il prétend qu'il y a quelque chose qui la précède, que même dans l'IA, on peut entendre quelque part une dynamique créative qui cherche à s'exprimer. Voilà, répondre. Quelques mots sur question vaste. Je vois qu'il est presque temps de se séparer. Je voudrais juste signaler que vous avez la possibilité de laisser sur les feuilles que M. Kress a entre les mains des coordonnées si vous souhaitez être joignable pour d'autres manifestations comme celle-ci. On est vraiment très heureux de votre présence, de votre participation. On souhaite renouveler l'expérience avec d'autres œuvres là, d'autres soirées de réflexion partagée. On va donc maintenant laisser la parole à Guillaume Anouar pour un mot de la fin. Je vous remercie.
Donc, moi, c'est la première fois que je vois un débat sur la pensée de Léninas, qui vient de l'industrie, de ce métier important. Et j'étais très touché par vous. C'est vraiment très intéressant. J'espère que vous pouvez participer au moins le film pourrait provoquer d'autres discussions comme celui-là. Je voudrais vous remercier à vous tous et de votre état. Alors voilà, merci beaucoup et bonsoir à tous.
Merci. Voilà, donc il y aura un support, suite à l'enregistrement de cette soirée, et donc vous allez pas lire Léninas, c'est un texte difficile, mais en particulier, on vous mettra une bibliographie sur le site de l'espace éthique, pour vous aider à vous aider. Merci beaucoup de votre présence, bonne soirée.